Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, de midi à 15h sur RMC, RMC Story. RMC Story, c'est le canal.
La TNT.
Oui, 23. La 23, TNT. Oui. Merci Frédéric Hermel de suivre. Frédéric
Hermel. J'ai pas encore mis mes lunettes.
Frédéric Hermel qui est avec nous, journaliste RMC, Robert Sebag est là aussi, infectiologue à la Pitié Salpêtrière, Benjamin Hamar, syndicaliste et enseignant, et bien sûr Alfred Orange, journaliste RMC. Dans un instant, faut-il relancer les colonies de vacances? Vous nous appelez au 3216. À 14h30, RMC Conso, les packs famille ou les packs maxi format que vous trouvez dans les rayons de vos supermarchés, sont-ils vraiment intéressants? Charlotte Méritant nous le dira. 14h40, les immanquables d'Alfred Orange. On parlera de quoi notamment, Alfred?
On parlera du succès du covoiturage et puis aussi peut-être la fin du financement du permis moto par votre compte personnel de formation.
Et puis à 14h50, Vincent Serroussi n'a toujours pas tout compris.
RMC Estelle Midi.
Chers parents, bonjour. Bienvenue à la colonie Séjours Heureux.
3 semaines, c'est lundi.
J'ai pas ma valise.
Est-ce que je peux changer de chambre?
Surtout pas d'inquiétude. Vos enfants sont entre de bonnes mains.
Alors toi, t'avais mal où? Tu sais plus. Bon bah, prends un verre d'eau. Voilà.
Cet été, confiez vos enfants à des professionnels.
Ça fait du bien, un peu de calme.
Nos jours heureux. On vient d'entendre notamment Jean-Paul Roux. C'est un film qui est sorti en 2006. Pourquoi on passe cet extrait? Parce qu'on va parler des colos, justement, le pass du jour, le pass colo, mis en place à partir d'aujourd'hui par le gouvernement pour tenter de relancer les colonies de vacances. Alfred, l'idée, c'est d'inventer un nouveau rite républicain.
Exactement, ce pass colo s'adressera aux enfants de 11 ans dès cet été, et pour le gouvernement, il doit marquer un passage important dans la vie d'un jeune, comme peut l'être l'entrée à l'école ou l'obtention du baccalauréat. Dans l'esprit du ministère de la Justice, ces jours seront essentiels car ils auront une vertu éducative en favorisant la sociabilisation et la vie en collectivité. Ce passe-colo sera attribué en fonction du quotient familial et sera directement déduit du prix du séjour. L'aide pourra quand même aller jusqu'à 350 euros pour les ménages les moins aisés. 80% des familles sont éligibles à ce dispositif puisque cette mesure concerne les familles touchant jusqu'à 4000 euros de revenus mensuels. L'objectif de la ministre Sarah El Haïry en charge des familles et de la jeunesse est de faire partir 2 millions d'enfants en colonie chaque année, alors que le rythme s'est un peu essoufflé ces dernières années puisqu'on était plutôt aux alentours d'1 300 000 enfants l'année dernière en colonie de vacances.
Faut-il relancer les colonies de vacances? Vous nous appelez au 3216. Qui est allé en colo ici? Robert Sebag, Benjamin Hamar, Alfred. Allez, je vais d'abord vers Robert si tu veux bien, Benjamin.
Bien sûr.
Robert Sebag.
Moi, ça me rend nostalgique, ce thème. Ça me rend nostalgique parce que, effectivement, j'allais en colonie de vacances. C'était la séparation avec la famille.
Avec quel âge?
J'ai commencé, je devais avoir 7-8 ans, et puis j'y suis allé jusque 6e, 5e, et après, je suis allé au scout. Donc bon,
c'est à peu près pareil.
Mais d'abord, on rencontrait plein de gens, on rencontrait plein de personnes. Et je pense que la société a changé parce que les parents à l'époque, si vous voulez, travaillaient un petit peu moins, donc travaillaient, et puis donc les enfants, c'était bien qu'ils partent en vacances. On n'avait pas toujours de l'argent pour prendre ses propres vacances et prendre les enfants avec eux. Et aujourd'hui, ça se raréfie un petit peu. Alors j'essaye de comprendre pourquoi. C'est que peut-être l'enfant roi, les parents ont envie d'avoir leurs enfants avec eux. Il y a aussi la crainte, parce qu'il y a eu beaucoup d'affaires, si vous voulez, de maltraitance par des moniteurs, des problèmes sexuels aussi.
Et donc, ça coûte cher l'écolo aujourd'hui.
Non, il y a le prix, mais il y a eu ça. Donc il y a une certaine crainte. Alors moi, je trouve que par contre, le restreindre à un certain nombre de personnes en fonction des revenus, parce que si on veut effectivement ce melting pot social qui permettait dans les colonies de vacances... Ça me paraît important. Non, mais ça,
mais là, c'est 80% de la population qui consomme.
D'accord, 80%. Il en manque aussi 20%.
C'est jusqu'à 4000 euros de revenus pour le foyer.
C'était aussi pour certaines familles de prendre le bus, de prendre le train, de voir un certain nombre de régions. Moi, j'avais une des premières colonies, c'était au Sable d'Olonne. Alors, je quittais la région de Toulouse pour aller au Sable d'Olonne. Et puis, on avait été après voir les îles au large de l'Atlantique, ce qui m'a fait revenir sur l'île Dieu et autres. Donc, je veux dire, c'est quelque chose d'important. Il y a une colonie de vacances encore. Et c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire avec mes parents.
Bah oui.
Donc, et je pense à la chanson effectivement
de Pierre Perret,
les jolies colonies de vacances. Je sais pas, j'ai une certaine nostalgie et je m'aperçois qu'effectivement les chiffres diminuent et que ça ferait peut-être beaucoup de bien à des enfants et ça pourrait peut-être réduire les phénomènes de délinquance.
Benjamin Hamar.
Ouais, moi j'ai été
J'ai fréquenté les colonies de vacances jusqu'à tard, hein, et je n'en ai gardé que d'excellents souvenirs. C'est un grand moment de sociabilisation, on sort de la cellule familiale, et quand vous regardez aujourd'hui autour de vous et que vous demandez, il y a peu de gens qui envoient leurs enfants en colonies de vacances.
Bah, ça devient de plus, là pour le dire, hein.
Ça sera, mais ça serait rêvé autour de vous. Enfin, moi, j'ai très peu de gens qui me disent, ah, bah oui, il va en colonies de vacances, etc. Et je pense que c'est dommage, parce
comment
que.
Comment tu l'expliques?
Bah, ce qu'a dit Robert à l'instant, je pense couvre une bonne partie des thèmes. Mais je pense que plus globalement, ça répond. Je suis pas sociologue, mais ça répond peut-être à une logique de plus en plus individualisée au sein de la société. Et donc, fatalement, quand on part en vacances, c'est dans le cadre de la cellule familiale. Moi, des gens de ma génération à qui je dis, mais pourquoi tu les as pas emmenés en colonie de vacances? On te dit tout le temps, ah oui, mais non, mais j'ai envie qu'ils restent avec moi. Ouais. Et puis la peur, enfin,
je les vois pas assez dans l'année,
voilà, donc ça correspond à un repli individuel selon moi, et je trouve que c'est dommage parce que c'est toute une culture, et je pense que ça fait du bien aux gamins, les colonies de vacances.
Tiens, Alfred, toi qui es allé en colo, je m'adresse à toi, t'es allé où?
Moi je suis allé en montagne.
Où ça?
J'en garde un souvenir épouvantable.
C'est vrai?
Oui, il a fait mauvais, des orages, on dormait sous la tente, j'en ai pas dormi pendant 15 jours, donc
t'es parti qu'une fois du coup?
Je suis parti qu'une fois.
T'avais quel âge?
J'avais 8 ans.
Ouais, t'étais petit.
Ouais, c'était jeune.
Ouais, ouais. Fred Hermel, jamais de colo?
Non.
Mais t'as un avis sur les colos?
Ah, ben bien sûr, j'ai un avis.
La stabilisation.
Ah, ben moi, je trouve ça, l'idée est plutôt bonne. Après, j'écoutais l'ami Alfred, qui nous parlait des objectifs du gouvernement. Je trouve que les gouvernements mettent beaucoup, beaucoup de vertus à. On demande un petit peu trop aux colos. Mais
c'est vrai que c'est fort, hein, parce que.
Bah, le c'est projet, un peu exagéré.
Un rite républicain, oui, il compare ça. Oui. Dans le rite républicain, il y a l'entrée à l'école. Enfin, il y aurait l'entrée à l'école. Il y a le bac et entre les deux il y a la colo.
Non, ouais. Non, sur ça c'est excessif. Ça c'est de la communication politicienne. C'est autre chose.
Ouais, voilà. Et comme ils n'arrivent pas à faire le service.
Est-ce que ça peut pas rentrer dans
il y a le service
Est-ce que ça peut pas rentrer dans une démarche républicaine?
Non, quand même, mais il faut arrêter. Alors, je vais te dire le truc. Je trouve que alors moi qui suis un vrai républicain, je me sens républicain. Je trouve qu'on met le mot républicain un peu républicain, etc. Voilà.
C'est la liberté.
C'est voilà. Tout. On fait un petit peu trop. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien que 80% des familles françaises qui sont concernées. Ça me paraît beaucoup. Bah, beaucoup, 80%. Parce qu'en général, c'est pas 80% des gens qui peuvent. Bah oui, parce que les aides sociales, parce que c'est une aide sociale,
ouais.
Ça ne concerne jamais 80% des gens. Non. À part les allocs, bien entendu. Mais voilà, pour le reste.
Encore, ouais.
Donc là, je trouve ça bien. Mais ce n'est pas non plus la panacée. On va pas régler tous les problèmes en France parce qu'il y a ça. Non. Après, c'est vrai, parce que moi, j'avais suivi pas mal de choses du Secours Populaire, par exemple, des journées à la mer, parce que c'est vrai qu'il y a des gamins qui ne voient jamais la mer, qui ne vont jamais en vacances. Donc, de permettre à des enfants, dont les parents n'ont pas les moyens d'aller en vacances, je trouve ça très bien. Mais, pour le côté rite républicain, je trouve ça un tout petit peu exagéré.
C'est du tourisme social.
Alfred, déjà de nombreux messages sur nos réseaux sociaux, notamment sur Direct Studio.
Oui, ça vous ravive de nombreux souvenirs, Cédric. Voilà. Il faut relancer l'écolo pour apprendre la vie en communauté et la vie sans écran, sport et nature. Ah ouais. Il n'y a rien de mieux.
Tiens, Robert, c'est pour toi.
Colonie de vacances. Merci. Merci, Marc.
Ça nous rajeunit pas, mais c'est quand même classique de chez classique. C'est pour toi, Robert. Cadeau. Faut-il relancer les colonies de vacances? Vous nous appelez au 32-16. Et tout de suite, justement, Richard est avec nous. Bonjour, Richard.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue. Bonjour. Reste à midi sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez d'où, Richard?
Alors, je suis dans le triangle Lyon-Saint-Etienne-Roanne, dans les monts du Lyonnais.
Très bien. Richard, vous avez quel âge, je peux vous demander?
J'ai 60 ans.
D'accord. Père de famille aujourd'hui?
Père de famille, une fille, 20 ans.
Ancien colon?
Ancien colon, ancien animateur, ancien directeur, ancien enseignant, ancien moniteur.
Génial.
Ancien éducateur sportif. Voilà.
Donc ça vous a tenu de quel âge à quel âge, la colo?
Oh, 8-18, 8 maxi, quoi.
Oui, mais après, vous étiez animateur, directeur.
Après, j'ai été animateur, j'ai été directeur.
Donc
je compte faire encore une vingtaine d'années.
C'est vrai?
Oui.
Ah, c'est génial. Donc, la colo, c'est votre vie, quoi. Ça fait partie de votre vie. Hein.
Voilà, l'organisation de séjour, l'accueil d'enfants, tout ce qui va avec, le pôle éducatif, le pôle sportif, le pôle voyage, le pôle découverte, le pôle loisir, le pôle tourisme, tout ce que vous disiez, eh bien, ces pôles, à mon avis, il faut les développer, les intégrer, les façonner, voilà.
Richard, c'est une question qui est toujours compliquée, mais si vous deviez me définir la colo en un mot, c'est quoi la colo?
Alors, la colo en un, c'est les vacances. En deux, c'est du bien-être et puis de l'apprentissage.
Ouais, moi ça m'émeut un peu parce que moi aussi je suis ancien colon, je suis ancien animateur. Mais quand on voit des gens comme Richard, qui a un âge tout à fait respectable, mais je veux dire, qui ont passé leur vie comme ça à essayer de. Parce qu'on le sent, je suis sûr, Richard, que c'est ça, à essayer de transmettre, quoi.
Ah oui, bien entendu. De toute façon, c'est de la transmission, hein. C'est ce que je vous disais.
Vous avez vécu, on vous a transmis des choses, et aujourd'hui.
Il faut que tu sois bien, puis t'apprends. Tu perds, t'as la banane, t'es content, tu pleures parce que t'es triste, parce que tu quittes.
Oh, les larmes à la fin de la colo.
T'as des choses nouvelles, t'as fait du contenu.
Ouais, c'est vrai. Ça a toujours été dingue. Les larmes, on vous l'avez connu, ça, les larmes à la fin de la colo. On reste que trois semaines.
C'est un truc de dingue.
On reste que trois semaines ensemble. On reste que trois semaines ensemble. Et après, tout le monde est en larmes au moment de se séparer. C'est dingue.
Ouais, bien sûr. Moi, j'ai la chance, à travers les voyages scolaires que j'organise, où on les envoie pas dans les familles, ils restent en auberge de jeunesse pendant une semaine.
Ouais, c'est
pas une
de vacances, ouais.
Voilà, c'est un séjour scolaire, mais ça s'apparente quand même à l'esprit colonie de vacances. Et les gamins en gardent des souvenirs, indécrottables, et ils vous en reparlent encore 20 ans plus tard.
Richard, comment vous l'expliquez? Vous le savez comme moi, parce que voilà la face que la colo, elle a plus trop le vent en poupe, c'est depuis quelques années maintenant. Comment vous l'expliquez?
Alors pour moi, il y a un contexte économique, c'est-à-dire que les gens, j'entendais que vous parliez de niveau social, 80% d'aide, c'est pas 80%, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, une colo, c'est très cher, c'est environ 600 euros la semaine, c'est des vacances, et je pense que très peu de personnes ont accès à la vraie colonie de vacances. Si tu veux réserver un temps de famille avec en vacances sans famille avec tes enfants, et après trouver un budget, une semaine, deux semaines, trois semaines, ou même qu'une seule semaine sur l'été, je pense qu'il est économique. Et puis après, il y a les craintes sur les dérives de comportement, sur les dérives éducatives, sur la violence, les risques, les dangers. Même si les organismes d'État qui sont là pour contrôler, labelliser, conformiser, sont extrêmement stricts et ils sont très exigeants dans les règles et dans les normes, le respect des règles et des déclarations.
Richard, le pass colo, c'est une bonne idée?
Moi, je trouve que le pass colo, c'est une excellente idée.
Oui.
C'est, à mon avis, pas simple à mettre en place, mais l'idée de fond, dans l'objectif, je trouve ça excellent.
Vous partez où cet été, Richard?
Je suis juillet-août, je partirai pas. Je vais faire des colos dans les monts du Lyonnais avec du VTT, du cheval, du canoë, de l'acrobranche, des soirées, des randonnées.
La veillée?
La veillée.
Et on fait, et avec les normes environnementales aujourd'hui, les sécurités, on fait encore des feux de camp ou pas?
Oui.
Ouais, on le dit pas. Oui. Très bien. Non. Ah oui, parce qu'une veillée sans feu de camp en camping, c'est pas possible. Merci beaucoup.
Sur deux à trois semaines, c'est pas bien possible. Il manque quelque chose.
Voilà, exactement. On est d'accord. On n'a rien dit. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous. Richard qui nous appelait au 32-16. On va rejoindre à présent Alexia rapidement. Alexia qui nous appelle depuis la Seine-Saint-Denis.
Allô.
Bonjour Alexia.
Bonjour.
Bienvenue bonjour. Dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez d'où Alexia? Seine-Saint-Denis, c'est ça, mais de où?
Seine-Saint-Denis, ouais.
Très bien. Vous avez quel âge?
51.
51. Ancienne colon ou?
Ah oui. J'ai un peu le même profil que l'auditeur d'avant. Donc moi, j'ai été en colo au moins une fois par an, mais surtout deux, depuis que j'ai 3-4 ans.
Ah oui, toute petite alors, toute petite.
Voilà, toute petite. Et j'ai tellement adoré que je suis restée dans le milieu en devenant animatrice, coordinatrice. Donc sur des centres de vacances, des camps itinérants, enfants, ados, des classes de découverte, des voyages scolaires.
Et vous continuez aujourd'hui?
Non, ça fait un petit moment que j'ai arrêté. Mais ça me manque beaucoup, vu que j'avais un emploi à temps plein.
Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans la colo?
Comme on disait, hein, c'est les vacances, c'est les copains, c'est découvrir des tonnes et des tonnes d'activités que j'aurais jamais fait sinon. Je suis allée dans toutes les régions de France et à l'étranger aussi. Et puis c'est une école de la vie, quoi. On apprend énormément de choses. Enfin, nous on voit les gamins on leur apprend plein de choses qu'ils apprennent pas chez eux et ils deviennent autonomes.
La richesse de ce qu'on fait, c'est vrai, Alexia. Même moi, je me souviens d'une colonie de vacances que j'avais fait quand j'avais 16 ans. Pourtant, à 16 ans, on n'est pas forcément très, allez, comment dire ça?
Ouais.
Agréable, hein. Voilà, très agréable et puis très sensé, ça arrive, voilà. Mais moi, je me souviens que j'ai fait une colo quand j'avais 16 ans, j'ai fait de la plongée sous-marine, je suis parti un mois sur la Côte d'Azur, à Antibes.
Ouais.
Et je savais, malgré tout, malgré mes 16 ans, j'allais dire, que ce que j'étais en train de vivre, je le revivrais peut-être plus jamais de ma vie.
Ouais.
Même si je gagnais très bien ma vie, parce que là, partir tous les matins, les matins sur une vedette, faire de la plongée sous-marine avec des plongeurs professionnels, l'après-midi, faire de la plage, jouer au ballon sur la plage, comme ça, pendant un mois, je me disais même à cet âge-là, waouh, Waouh. Ouais, et ça, c'est vrai génial. Que ça, c'est la colo, quoi. C'est, ça a un prix, mais c'est des choses qu'on peut se permettre de vivre quand on est gamin et qu'on vivra peut-être pas quand on est adulte, quoi.
C'est les vertus du tourisme social.
Ouais. Merci beaucoup.
C'est tellement de partage et d'apprentissage. Enfin, c'est vraiment à remettre en route, oui. Donc, effectivement, il y a des contraintes financières, etc., mais il y a des choses à faire.
Vous êtes mère de famille, Alexia? Je vous ai pas demandé.
Non.
Bon, d'accord. Mais vous avez eu plein d'enfants parce que vous faisiez.
Ah bah oui, aussi dans le sport aussi.
Non mais merci Alexia d'avoir été avec nous. Alexia qui nous appelait depuis la Seine-Saint-Denis. Robert,
moi j'ai appris à faire mon lit par exemple.
Au carré, oui. Tu faisais le lit.
Oui,
au carré.
Mais oui, non, en colonie armée ça. Oui, il y avait des choses que je ne mangeais pas à la maison qu'on m'a appris et puis j'ai mangé en colonie et mes parents étaient ravis quand je revenais de pouvoir manger ça. Ouais. Et j'ai tellement aimé qu'ensuite j'ai fait le stage de moniteur. J'étais moniteur de colonie de vacances et ensuite j'étais infirmier au début de mes études de médecine. Je passais mes vacances comme infirmier dans les colonies de vacances et dans les camps scouts.
Pas mal.
Donc voilà, ça a été. C'est pas anodin.
C'est pour ça qu'on dit que c'est un lieu d'apprentissage et de sociabilisation, mais c'est pas une vue de l'esprit.
Moi, j'ai appris à faire la vaisselle au gel douche en colo. Quoi? Mais on s'était planté, non mais vraiment, on a dû tout recommencer après, évidemment. Tout de suite, Anne Carayon nous rejoint. Bonjour Anne Carayon.
Bonjour.
Directrice générale de l'association JPA Jeunesse au plein air. C'est bien ça, Anne Carayon?
Tout à fait, c'est ça.
Bon, vous l'entendez certainement dans la voix de, j'espère que vous avez entendu Alexia qui témoignait, Richard aussi, Benjamin, et puis Robert, et puis moi-même. Dans les voix, là, quand on parle de colo, il y a un sourire, il y a des souvenirs.
Ben oui.
Ça reste quelque chose de très précieux pour ceux qui l'ont connu. Hein.
Les premiers flirts.
Aussi.
Oui.
Anne
Carayon. Les premières fois. Les colos, c'est les premières fois, vous l'avez dit, et merci pour tous ces témoignages. Nous, on a un slogan maintenant, les colos, en fait, ça permet de se créer des souvenirs pour devenir. C'est tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire que même adulte, si on ferme les yeux, si on se rappelle des colos, ouais. Même quand l'expérience n'a pas été que bonne, parce que le temps était mauvais, je suis sûre qu'on retrouve des bons moments et des choses qu'on a apprises. Et c'est ça, les colos. C'est pour ça que c'est important que tous les enfants puissent y partir pour grandir, tout simplement, et pour avoir tous la chance d'avoir cette expérience-là et ce vécu-là.
Je vous pose la question à vous aussi, je l'ai déjà posée, mais je vous la pose à vous, Anne Carayon. Ces dernières années, c'était compliqué hein, pour les colonies de vacances. Il y a eu une chute assez importante hein, du nombre de d'enfants qui s'inscrivent, dont les parents inscrivaient en colo. Comment vous l'expliquez, vous?
Alors, ça a été dit, il y a des raisons qui ont été données. Je ne vais pas reprendre celle-ci, je vais en rajouter une. Il y a aussi les parents séparés. Et la question, du coup, quel est le parent qui va laisser, ou est-ce que les deux parents acceptent de laisser un peu de temps pour que leur enfant parte sans eux? Ça joue aussi, donc il y a tout un contexte. Et aujourd'hui, du coup, on arrive à une génération de parents, de jeunes parents, qui eux-mêmes ne sont pas partis en colonie de vacances. C'est pour ça que c'est très, très important, ce coup de pouce du passe-colo.
Parce que ça va
permettre de découvrir la colo pour la première fois. Et quand on part en colo une fois, en général, on veut y repartir. Et c'est là qu'on va avoir un impact, parce qu'il faut que les enfants puissent partir plusieurs fois pour en effet que ça a un véritable impact sur les futurs adultes qui seront.
Et Anne Carayon, j'allais vous poser la question, parce que vous me dites, effectivement, quand on est parti en colo une fois, généralement, on a envie d'y retourner. La première fois, il faut peut-être donner un conseil aux parents. C'est vrai que c'est parfois les enfants, quand on leur dit « tu vas partir en colo cet été », c'est compliqué la première fois quand ils y seront jamais allés. Hein. Il y a une crainte.
Il y a une crainte, mais là je reviens au passe-colo et on le sait, souvent les enfants ils ont envie de partir en colo parce qu'il y a un copain qui va partir en colo.
Ouais, c'est vrai.
Et de fait, de s'adresser à tous les enfants de 11 ans, notre objectif, nous, c'est de dire que dans la cour de récré, on va parler du passe-colo. Tu fais quoi cet été? Je pars en colo. Et finalement, avec cette aide, les familles qui ont besoin d'un coup de pouce vont pouvoir inscrire leur enfant en colo. Celles qui ont la chance d'avoir un peu plus de moyens vont pouvoir inscrire leur enfant en colo. Et donc, on va faire partir des enfants ensemble sur des séjours et on va lever des craintes aussi comme ça.
Anne Carayon, moins d'enfants qui sont partis ces dernières années en colo. Est-ce que vous avez suffisamment aussi de personnel?
Alors, comme beaucoup de secteurs, on a connu la pénurie en animateurs et en directeurs. Ça reste aujourd'hui un sujet tendu. Après, c'est malheureusement aussi, encore une fois, hein, le fait qu'il y ait eu moins d'enfants partis en colo. Vous l'avez dit dans les expériences, quand je suis partie en colo, souvent je deviens animateur.
C'est
comme on a moins d'enfants qui partent en colo, on a moins d'animateurs. Donc vraiment, on espère que cette spirale va se réinverser. Et puis c'est tellement bien d'encadrer, c'est tellement super ce qu'on y vit. Donc,
je suis d'accord.
Voilà.
Quand on l'a vécu, on ne peut pas dire autre chose. Benjamin, Robert, je crois qu'on est d'accord. Merci Anne Carayon d'avoir été avec nous.
Juste directrice. Pardon,
Anne Carayon.
Je me permets un tout petit complément.
Allez-y.
Parce que les enfants qui auront droit au pass colo, ce ne sont pas que les enfants qui reperçoivent la CAF ou la MSA.
Ah non, non.
Toutes, voilà.
Absolument,
ça
on l'a dit.
Ça va jusqu'au quotient 1500. Voilà, parfait. Parce
ouais, que on à l'a moment dit, on l'a dit.
Vous disiez ça... 80% de la tranche d'âge.
C'est ça.
Ça m'étonne, mais en fait, cette différence, elle est sur la classe moyenne qui sera touchée.
C'est ça, absolument, parce que ça va jusqu'à 4000 euros de revenus pour l'ensemble du foyer, enfin pour le foyer. Donc 80% exactement. De la population, d'après le gouvernement, pourrait bénéficier de ce pass colo qui est à destination des enfants de 11 ans. Merci Anne Carayon, directrice générale de l'association JPA Jeunesse au plein air, d'avoir été avec nous. Retourne au 32-16. Il y a Amélie qui est avec nous. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Amélie, vous nous appelez depuis la région parisienne.
Oui, tout à fait.
On est dans les Yvelines.
Oui.
Dans quel coin des Yvelines?
Le sud Yvelines, vers
d'accord.
La Chevreuse.
Très bien. Vous faites quoi dans la vie?
Je fais des contrôles d'audit de qualité.
D'accord. Ancienne colon?
Oui. Oui.
D'accord. De quel âge à quel âge?
De 6 à 17 ans.
Ah oui, donc bonne expérience de colon, très belle expérience de colon. Mère de famille aujourd'hui?
Oui. Oui, oui.
Et ils ont quel âge vos enfants?
Alors 8 ans et 12 ans.
8 ans et 12 ans. Ils partent en colon?
Depuis l'âge de 6 ans.
Ouais, voilà. Et voilà. Transmission. Et comment ils vivent ça? Comment ils vivent ça?
Eh ben, ils vivent très bien. Ils vivent très bien. Ils préfèrent même ça au centre de loisirs.
Ouais. Comme on disait avant.
Parce que, ben, déjà, moi, ça les a. Ben, ils n'ont pas eu le choix. Parce que, clairement, je travaille. Je ne peux, pas les garder à chaque vacances.
Je me permets de vous interrompre, Amélie, mais je crois qu'il ne faut pas leur laisser le choix.
Mais c'est ça.
La première fois.
En fait, à 6 ans, c'est nous qui décidons. C'est sûr que ça pleure sur le coup.
Ben oui.
Mais comme nous, hein, nous aussi, hein, c'est toujours un déchirement. Mais si on ne passe pas ce cap, on ne le passera jamais.
Moi, je me souviens que la première fois que ma mère m'a dit « tu vas en centre aéré », bon, là, on parle de colo, mais c'est aussi le centre aéré. La première fois que ma mère m'a dit « tu vas en centre aéré » au mois de juillet,
pleuré.
Oh, j'ai pleuré, j'ai dit « non, je veux pas y aller ». J'avais 6 ans, quelque chose comme ça. Et puis, le soir, je suis rentré, elle m'a dit « alors, comment c'était ?» Avec ma fierté de gamin, j'ai dit « ouais, ça va ».
Ouais, ça va.
Et j'avais qu'une hâte, c'était d'être le lendemain. C'est vrai. Amélie, c'est ça avec les gamins
voilà.
aussi. Hein.
Voilà, et puis c'est surtout que ça leur permet de faire des activités que nous, parents, on ne peut
bah
pas
oui,
faire.
Bah oui, forcément,
des chansons.
Ou qu'on n'a pas forcément le temps de faire. Enfin, moi, je sais qu'ils partent au ski. Moi, ma fille, elle a quand même, grâce à ça, elle a la flèche.
Bien.
Voilà, parce qu'en plus, ça fait des cours avec l'ESF.
Très bien.
Voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément tous faire.
Bien sûr.
Et également, aller à la mer ou visiter des endroits que nous, on ne les accompagne pas forcément. Et puis, ça, c'est surtout qu'ils n'aiment plus les brouillards.
Ils partent tous cet été?
Alors, cet été, ils ne font pas de colo parce qu'ils en ont fait là actuellement.
D'accord, ils en font là pour les vacances de Pâques.
Là, okay. Voilà.
Et ils sont où alors?
Alors, j'ai ma grande qui est en Angleterre.
Bien.
Pour un séjour linguistique.
Bien.
Voilà. Et mon petit qui est parti dans les Pyrénées faire de la randonnée et de l'élevage canin.
Ah, oh, génial. Wow. Il va revenir. Vous avez un chien ou pas?
Non.
Il va vouloir. Hein. Ça, c'est désolé. Il va pas y passer, Amélie, forcément. Merci beaucoup, Amélie, d'avoir été avec nous.
Par contre, je tiens à préciser que c'est un vrai budget. C'est un
oui,
budget.
C'est, bah, oui, c'est sûr. Oui.
Même si les employeurs, parce qu'il y a certains employeurs qui aident avec les CE,
ouais.
C'est vraiment... moi, je peux pas faire plus d'une semaine par an pour les enfants.
Le pass colo, peut-être que vous y aurez droit, hein, Amélie, hein.
Mais ce qui est dommage, c'est que ça, c'est qu'elle est sur une tranche d'âge.
Ouais, c'est 11 ans, ouais. C'est vrai, c'est à l'âge de 11 ans.
Et
ouais.
c'est vraiment parce que.
C'est peut-être un début, il faut espérer que. Je sais pas, hein, j'en sais rien.
Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que les ados, après le collège, ils n'ont plus de centre de loisirs.
Ouais.
Donc, ça serait aussi une opportunité pour les petites vacances de pouvoir faire garder nos ados.
Ça, il faudrait relancer aussi, parce que je sais que c'est compliqué pour les communes, c'est une charge financière, mais il faudrait relancer aussi les centres aérés, parce que moi, j'ai connu aussi. Le centre aéré,
oui.
Et même quand j'étais grand, quand j'avais 15 ans.
Les collèges sont gérés par le département.
Et franchement, j'en garde un super souvenir aussi. Hein.
Aussi j'ai
je
veux
dire que
aéré.
On ne sait pas quoi faire l'été, que les parents partent pas. Voilà,
bien
c'est
sûr,
comme
bien
ça.
Sûr.
Moi,
on préfère aller au centre aéré avec les copains. Que
aéré et colo.
Bah, oui. Les budgets des villes aussi sont en même temps grevés, quand même, faut le savoir. Les communes financent les centres de loisirs, mais par contre, pour ce qui est des collèges, ça relève du département.
Ouais.
Donc là, on a besoin effectivement de moyens pour pouvoir financer ça. Ce serait excellent, ça c'est évident. Vu le million de jeunes qui ne partent pas en vacances.
Merci à Amélie d'avoir été avec nous au 32-16. De très jolis témoignages. Et on vous a posé la question, faut-il relancer les colonies de vacances, Alfred ?
Vous répondez oui à 77%, non à 23%. Ouais, 23%,
je finis avec ceux qui n'ont jamais fait colonies.
Oui, avec un joli message d'Anthony qui dit Grèce, Portugal, Corse, j'ai fait 3 ans de colo et c'est encore les meilleurs moments de ma vie.
Voilà. Allez, dans un instant, RMC Console, et on va parler des packs famille ou des packs maxi-format. On en voit dans les supermarchés, dans les rayons. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne affaire ? Charlotte Méritant va nous répondre. C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 15h. Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Charlotte Méritant nous a rejoint.
Estelle Midi,
RMC Conso.
Charlotte, bonjour d'abord.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on va parler, Charlotte, d'un sujet de taille. On va parler des formats, des grands formats, formats maxi ou familiaux qu'on trouve dans les rayons de nos supermarchés. Sont-ils vraiment intéressants en termes de prix par rapport aux plus petits formats ? Alors, on a devant nous, là, on a une énorme boîte de cornflakes, là.
Oui, et spontanément, on a envie de répondre oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais spontanément.
Plus il y en a, moins c'est cher au kilo, non ?
Voilà, en tout cas, si on ramène le prix au kilo, a priori, plus on achète en quantité, bah, plus le prix va être dégressif pour des raisons toutes simples d'économie d'échelle. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Et ça, c'est vraiment un aspect marketing qui est important à visualiser, parce que moi je me suis juste baladée dans les rayons et j'en ai facilement repéré une petite dizaine sur lesquelles ça n'était pas du tout le cas. Donc je vais vous présenter 3 exemples et vous allez voir, c'est assez édifiant. Par exemple, j'ai une boîte de 6 œufs. Ouais. De 6 œufs de poule élevés en plein air, bio, etc. Et j'ai amené exactement la même boîte. Alors, ce sont les mêmes œufs, hein, je vous précise. Sauf qu'il y en a 15.
Tout est pareil, sauf qu'il y en a 15.
Eh bien, dans ma boîte de 6 œufs, la pièce, l'œuf vaut 35 centimes. Alors que dans ma boîte de 15 œufs, la pièce vaut 38 centimes.
Mais pourquoi ?
Bah, je vous le demande.
L'emballage.
Absolument pas.
Dans ce cas-là, moi, j'achète 2 petites boîtes et puis ça me revient moins cher. Quoi.
Exactement, ça revient moins cher d'acheter les petites boîtes. Et donc, ça, c'est un des exemples qui vous montre qu'en fait, les grands formats ne sont pas toujours intéressants. Deuxième exemple, c'est les céréales. Alors, j'ai pris 2 paquets de céréales. J'ai pris des trésors coco-noisette, choco-noisette. Le prix du paquet 410 grammes, il est de 7,59 €. Le prix du kilo, là c'est carrément le paquet 1 kilo de trésor, il est à 7,77 €. Donc 7,59 €, 7,77 €. Là aussi, il y a un problème de logique claire qui est que le grand format est plus cher au kilo que le petit format. Pas logique. Et puis, je trouve que l'exemple le plus édifiant, parce que la différence est vraiment choquante, c'est le café. J'ai pris un paquet de café carte noire moulu arabica classique à l'unité. Et puis, j'ai pris un lot, 3 paquets. C'est exactement le même café. Eh bien, l'offre 3 paquets m'a coûté presque 1 euro de plus.
1 euro ?
1 euro de plus que si j'avais acheté les 3 paquets à l'unité séparément. Voilà.
Ouais, je vois même, t'as mis le détail, c'est quoi ? Le 3 paquets, c'est 12,88 € le kilo.
Ouais.
C'est 11,94 € le paquet.
C'est 11,94 € si j'avais acheté les 3 paquets séparément. Donc ça fait quasiment 1 euro. Différence.
Et c'est comme ça
donc,
pour tout
Alors non, mais bon, tout ça pour dire, ouais, vous avez intérêt à les acheter 3 fois séparés plutôt que le lot direct. C'est pas comme ça pour tout, évidemment, heureusement, parfois alors, c'est plus intéressant. Mais effectivement, il y a vraiment un problème de clarté, puisque si il y a des moments où c'est intéressant et d'autres non, bah, comment on fait pour s'y retrouver? Il y a une vraie confusion du contenu.
Il faut regarder le prix au kilo, en fait, systématiquement.
Il faut toujours regarder le prix au kilo.
Ouais, mais alors... C'est très bien, ouais, mais quand, ouais,
Ah, bah, c'est vite indiqué.
Mais moi aussi, non, mais moi, je fais aussi, mais tu sais très bien qu'il faut avoir le temps de le faire, etc. Temps, ouais. En plus, t'as raison, il y a du marketing, parce que généralement, il y a une grande pancarte écrit, maxi format, format familial, tu dis.
Familial, bah oui, tu dis, familial, c'est fait pour moi, c'est pas cher.
Ils comprennent que nous sommes nombreux, ah, bah, ils sont sympas.
C'est ça. Alors, là, sur les exemples que je vous ai apportés, c'est pas forcément le cas, mais notamment, sur les paquets de céréales, oui, c'est écrit en gros, en lettres capitales, en jaune et rouge, 1 kilo. On a envie de croire que c'est moins cher.
Tu regardes, tu dis, bon, bah, un kilo,
c'est du conditionnement.
Exactement.
Je vais oser le dire. Je vais oser le faire. Est-ce qu'on peut parler de tromperie ?
En tout cas, selon les associations de consommateurs, oui, il y a tromperie. Foodwatch et 60 millions de consommateurs mènent régulièrement des enquêtes dans les rayons pour voir ces différences de prix. Et d'ailleurs, en 2020, Foodwatch avait écrit à toutes les enseignes de la grande distribution pour leur signaler le problème. Et ce qui s'était passé, c'est qu'elles avaient quasiment toutes changé leur prix en catimini discrètement sans répondre.
D'accord.
Et le problème, c'est que bah, visiblement, ça n'a pas permis d'enrayer le phénomène, puisque aujourd'hui, on le constate toujours. Et d'ailleurs, D'ailleurs, l'année dernière, l'association avait interpellé Bruno Le Maire à ce sujet et il ne leur a pas répondu.
Bah, Bruno Le Maire, je comprends pas.
Il défend le panier moyen du français.
Il lutte contre l'inflation.
C'est dommage.
Il a des livres à écrire.
Le courrier s'est peut-être égaré.
Oui.
Mais là, il nous regarde. Donc voilà.
Il va agir quand même.
Bon, la grande distribution, elle justifie ça comment?
Alors parfois, elle estime qu'il s'agit tout simplement d'erreurs. Et puis il y a un autre argument parce que le premier, moi, il me convainc pas du tout. Le deuxième argument, peut-être, éventuellement, je vous le donne. En fait, ils disent que certains produits à format standard sont considérés comme des produits d'appel. C'est quoi des produits d'appel? Ce sont des produits qui sont là pour attirer le consommateur. Donc le distributeur baisse ses prix sur ces produits-là pour que le consommateur aille dans son enseigne et pas dans une autre. Et donc, en fait, les produits standards, eh bien, ils sont plus chers au kilo parce que ce sont des produits d'appel et les grands formats ne le sont pas parce que eux, ciblent un petit peu moins de monde vu qu'ils ciblent des familles nombreuses, etc.
Bon, on se laisse pas voir, on regarde le prix au kilo.
Donc, on regarde bien les étiquettes.
Ouais, exactement. Merci beaucoup, Charlotte.
Merci,
dans un instant, les immanquables avec Alfred Orange. On parlera de quoi, notamment, Alfred?
On parlera du gouvernement qui cherche 10 milliards d'économies supplémentaires et puis on parlera aussi du covoiturage et de son succès.
À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, midi 15h sur RMC et RMC Story, le canal 23 de la TNT. Il est là, c'est Alfred Orange et il a amené ses immanquables.
Ils sont tous là. RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Ce que ne fallait pas manquer aujourd'hui dans l'actu, on commence par la recherche du jour, Alfred.
Oui, gouvernement cherche 10 milliards d'euros désespérément avec un déficit public attendu à 5,1% du PIB cette année au lieu de 4,4% initialement prévu. Les efforts budgétaires vont devoir s'intensifier. Bercy a annoncé hier un nouveau plan d'économie de 10 milliards d'euros quelques semaines seulement après avoir déjà annoncé un autre plan d'économie de 10 milliards d'euros.
Donc on en est à 20.
On en est à 20, l'histoire peut continuer. Et Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, a prévenu les collectivités locales et publiques vont devoir prendre part à cet effort.
Bruno Le Maire l'a promis, Benjamin Hamard, il n'est pas le seul à l'avoir fait, Gabriel Attal aussi, les impôts n'augmenteront pas. Est-ce que tu y crois?
En tout cas, ça, je m'aviserais bien de donner mon opinion là-dessus, tant les renoncements et les revirements étaient nombreux. En revanche, ce qui est certain, c'est que toute cette situation, le gouvernement paye, paye l'addition, est en train de payer l'addition politique. Ça pourrait aller encore plus loin, parce qu'il y a un risque de motion de censure, mais là, extrêmement sérieux, à travers justement tout ce que disent les Républicains sur les exigences.
L'opposition parle de budget insincère.
Exactement. Et alors là, par contre, on pourrait avoir un gouvernement qui se ferait définitivement coincé par une réalité. Il est en majorité relative. Et si les Républicains franchissent ce Rubicon-là, ça pourrait être fatal au gouvernement. Et ce serait normal. Ce gouvernement a donné des leçons à tout le monde sur ces questions d'orthodoxie budgétaire. Il a dit tout et n'importe quoi. Bruno Le Maire n'assume pas d'ailleurs son budget. Il dit que finalement, lui, il était contre un certain nombre de mesures. Et je pense que ce serait une bonne chose qu'il paye l'addition politique à travers une motion de censure.
Oui, mais il y aura une dissolution. Il y aura pas de dissolution obligatoire. Il y aura le gouvernement qui va sauter, un nouveau gouvernement. Ça n'est pas obligé de faire une dissolution de l'Assemblée, parce que LR aurait tout à perdre en plus.
C'est sûr. Mais Robert,
est-ce que tu crains qu'on soit obligé à terme de passer à la caisse?
Moi, je vois pas comment ils peuvent faire. Je vois pas comment ils peuvent faire, parce que là, tout d'un coup, c'est les collectivités locales.
Locales, tu crois qu'elles vont se reporter sur qui?
Elles se plaignent déjà de faire un certain nombre de choses, donc c'est déchargé sur les collectivités locales. Bon, après, je veux dire, il y a un moment, est-ce que c'est uniquement sur les dépenses? Ou est-ce uniquement sur les recettes? Alors là, on veut jouer uniquement sur les dépenses, on ne va pas jouer sur les recettes. Il y a un moment, peut-être qu'il faudra faire un panachage entre les recettes et les dépenses.
Politiquement, ça va être dur à assumer.
Il y a surtout un message à envoyer au marché, ceux qui nous prêtent de l'argent. Il y a un message à envoyer aux agences de notation qui, suivant leurs notes, définissent le taux de dette que nous, le crédit que nous prenons, les intérêts qu'on va payer. Ouais. Donc, c'est-à-dire que si on dégrade notre note, on paiera plus cher pour les milliards que nous empruntons sur les marchés tout au long de l'année. Donc il est évident que là, il y a une vraie politique de communication qui est lancée. Dans la déclaration de Stanislas Guérini sur l'emploi des fonctionnaires, etc., ce sont toutes des mesures dites libérales qui sont envoyés au marché. C'est-à-dire, ce sont des messages envoyés au marché pour dire, on fait des efforts pour alléger notre dette.
Clous,
pour voilà,
clous,
pour être dans les clous et on, voilà. Donc on va être moins étatique, on va être plus libéral et voilà. Donc, une chose, ce sont les annonces. On verra la
réalité. On verra les résultats, hein.
Parce que politiquement, il y a les Français aussi, les salariés qui auront des messages à faire passer. Si une telle mesure était mise en place.
Ça, on compte sur toi. La décision du jour.
T'as bien raison.
Oui, elle doit être rendue aujourd'hui par le Conseil constitutionnel concernant le référendum d'initiative partagée que les Républicains veulent organiser. Le parti veut restreindre les prestations sociales pour les étrangers. Dans leur requête, les LR veulent par exemple conditionner le versement de certaines prestations sociales à une durée minimale de résidence légale en France. Des mesures qui avaient été censurées d'ailleurs lors de la loi immigration présentée en janvier par ce même Conseil constitutionnel.
Frédéric Hermel, les LR ne désarment pas.
Non, mais en fait, il faut bien expliquer les choses. Ce sont ce qu'on appelle les aides non contributives. C'est-à-dire qu'un étranger en France, en situation régulière, qui paye ses impôts, etc.,
il travaille,
il a le droit à toutes les aides. Bien entendu, puisqu'elles sont... Il a cotisé pour ça, donc il n'y a pas de problème. Là, on parle de gens qui ne contribuent pas au collectif
et qui ont droit à certaines aides
non contributives. Ouais. C'est-à-dire parce qu'il y a des aides pour lesquelles, sur lesquelles on contribue. Le RSA, par exemple, est une aide non contributive. C'est-à-dire qu'on ne touche pas le RSA après avoir cotisé. Voilà. Donc... moi, je trouve ça normal qu'il faille un petit peu attendre un petit peu de temps de vie en France avant de pouvoir profiter d'aides pour lesquelles on n'a pas contribué. Il y a rien de scandaleux là-dedans.
Benjamin Marre.
Attendez, tout à l'heure, on m'a rappelé, les mineurs, les dommages des mineurs sont légalement et judiciairement imputables aux parents. On m'a dit, c'est la loi. Eh ben là, c'est la loi. Voilà. Et si c'est le Conseil constitutionnel qui a censuré, c'est le Conseil constitutionnel qui a censuré. Jusqu'à présent, ça n'est pas une escouade de gauchistes. Ils sont là pour rappeler les principes de la Constitution et l'égalité devant la loi. Donc, le LR continue son agitation. Il a une réponse du Conseil constitutionnel. Bah, il peut continuer à brasser de l'air, mais le Conseil constitutionnel a censuré.
Un Français aux États-Unis n'a pas exactement les mêmes droits qu'un Américain.
Oui, mais ça c'est aux États-Unis. Voilà.
Un Français qui va en Algérie, par exemple, c'est pas l'Union européenne. Ouais. Il n'a pas exactement les mêmes droits qu'un Algérien.
On est en France.
Donc là, c'est normal que
c'est la loi française.
Un étranger n'ait pas exactement les mêmes droits qu'un Français.
Il y a des mineurs sur les mineurs, c'est pareil. Dans d'autres pays, c'est différent.
C'est conditionné à un référendum d'initiative populaire. Donc on n'est pas sûr. Jusqu'à maintenant, ça n'a jamais réussi. Il n'y a jamais eu assez de signatures. On l'avait vu sur l'aéroport de Paris, etc. Ça n'est pas passé. Là, ça risque de ne pas passer non plus.
Là, sur le niveau de contrôle, parmi les aides qui sont délivrés, dont peuvent bénéficier des migrants en France ou des immigrés, il y a notamment la couverture maladie, sans condition de résidence, etc. Robert, ça, c'est important.
Alors,
je m'adresse aux médecins.
Non. Alors là, moi, sur la couverture maladie universelle, je dois dire que là, il y a un risque de contagieux. Il faut pas y toucher. Il faut pas y toucher aujourd'hui parce que ce sont des maladies. Il y a des maladies sexuellement transmissibles, des maladies contagieuses, exactement, de la tuberculose. Et là, il faut faire extrêmement attention. C'est un problème de santé publique.
C'est l'aide médicale d'État, en l'occurrence.
Donc là-dessus, cette aide médicale d'État, il faut pas y toucher. Nous, on en voit beaucoup. Et je suis fier que mon pays puisse répondre à ce genre de choses.
La nouveauté du jour.
Elle nous vient de l'assureur Maïf qui permet désormais à ses salariés de poser 3 journées de congé en cas de démarche de transition de genre. C'est une première en France. La Maïf vient en fait de signer son nouvel accord diversité, équité et inclusion avec les partenaires sociaux au mois d'octobre dernier qui inclut cette possibilité, même si officiellement aucun salarié n'a encore fait de demande.
Frédéric Hermel. Bon, après tout, la Maïf, elle fait ce qu'elle veut.
Hein. Elle fait ce qu'elle veut, mais c'est de la com. Ça correspond à... Ça concerne 0,00000, je sais pas combien de pourcentage des employés de la Maïf. Moi, je préférais que la Maïf travaille plus, par exemple, pour que les femmes aient plus de temps pour s'occuper de leurs enfants, ou les hommes de s'occuper de leurs enfants, qui les horaires aménagés pour pouvoir travailler, avoir une vie familiale et travailler. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à faire à ce niveau-là que de faire une mesure qui concerne quasiment personne et qui n'est qu'absolument que de la com. C'est de la com, c'est de la pub en fait pour la Maïf. En gros, regardez, on est hyper inclusif, venez chez nous. Voilà, c'est. Après, il y a des gens qui se laissent avoir
faire
ça, mais. Ce qui me dérange, c'est de se servir d'un sujet sociétal pour redorer son image. Moi, je trouverais beaucoup mieux que par exemple, il y ait des adaptations sociales pour le travail des gens. Voilà.
Robert.
Ça me gêne sur le fond. Ça me gêne sur le fond parce qu'il y a un vrai problème médical en ce qui concerne le cisgenre et les trans aujourd'hui. Je veux dire qu'il y a. Il y a des parents aujourd'hui qui en culpabilisent en disant qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que votre fils se suicide ou votre fille se suicide au lieu de passer, si vous voulez, de faire des traitements. Alors, il y a trois types de traitements. Il y a les blocages de puberté. Il y a les traitements hormonaux. Et souvent, on peut pas aller marche arrière. On peut pas faire marche arrière. Et c'est pour ça que des pays scandinaves, en particulier, j'espère que la France va le faire, on ne permet pas les traitements substitutifs pour changement, si vous voulez, changement de sexe, avant la majorité. Parce qu'effectivement, il y a des gens parfois qui ont fait ces changements et même chirurgicaux, et qui veulent, et on peut pas revenir en arrière. Donc, il faut être extrêmement prudent là-dessus. La dysphorie de genre n'est pas reconnue. Il peut y avoir des troubles au moment de la puberté. Il peut y avoir des troubles psychologiques. Il faut les prendre en charge. Mais attention à des choses qui sont rédhibitoires et pour lesquelles on peut pas faire marche arrière.
Benjamin Marre, la décision de la Maïf.
Non, mais la responsabilité sociale des entreprises, moi, je suis pour et, y compris sur la question de l'inclusion. Mais l'instrumentalisation des causes sociétales, c'est partout. Voilà. Donc, c'est d'accord pour c'est le greenwashing, c'est des tas de choses. Moi, globalement, je trouve que c'est une avancée. Il y a d'autres domaines où il faudrait avancer, mais c'est une avancée et je m'en félicite.
Merci Alfred pour les immanquables et tout de suite Vincent Cerussi nous rejoint.
RMC Estelle Midi.
Cerussi n'a pas tout compris.
Salut Vincent.
Salut. À chaque fois, hein, je n'arrive pas.
Le siège, t'as des problèmes de siège. Chacun ses problèmes. Des
problèmes de taille aussi.
Ouais, t'es peut-être trop petit aussi.
Bah oui,
ou trop lourd. Aujourd'hui Vincent, ou trop lourd.
Ça tire à balle.
Aujourd'hui Vincent, tu ne comprends pas pourquoi l'État a été condamné pour manque de profs.
Bah oui, vous en avez parlé, les parents ont porté plainte contre l'État pour absence de profs. Sauf pour les profs de techno, ça même les parents s'en battent les steaks. Il n'y a plus personne dans les salles de classe, hein. Les élèves sèchent les cours et les profs aussi. Limite maintenant, c'est les profs qui doivent faire des mots d'absence signés par les parents. Et en même temps, c'est pratique, vu leur salaire, généralement, ils vivent encore avec. Donc,
Mais est-ce que tu comprends la colère des parents?
Bah, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de profs absents, oui. Et parfois, les profs donnent des excuses bidons, hein. Benjamin n'est pas là, il est encore malade, alors qu'il est sur le plateau des Selmini. Au lieu de donner cours. Alors, c'est un vrai problème. Et en même temps, on peut comprendre les profs, hein. Ils en peuvent plus, ils ont des conditions de travail parfois difficiles. Ils parlent à des gens qui les écoutent pas, qui s'insultent, qui sont sur leur portable. En fait, prof, c'est président de l'Assemblée nationale en moins bien payé, quoi.
Bon, mais comment on fait face à ces absences de professeurs d'enseignants?
Ça devient vraiment n'importe quoi. Ils essaient de remplacer les profs, mais ils trouvent pas de remplaçant. Du coup, quand ils en trouvent un, bah, le remplaçant a quelques lacunes en général, quoi. Monsieur, comment on conjugue le verbe être au subjonctif passé? Bah, je sais pas, moi, de base, je suis chef de rayon chez Bricorama. Ouais, c'est lunaire, quoi. T'arrives en cours d'anglais, t'entends ça. What is the difference? Pas le niveau. Voilà. Maintenant, il y a même des profs qui doivent enseigner deux matières. Jusqu'où ça va aller? Des profs de sport SVT? Allez, les enfants, aujourd'hui, on va faire une course d'orientation sexuelle. Ouais, bah non. Des profs de sport histoire? Aujourd'hui, c'est chaud à la perche. Non, et à un moment donné, c'est bon, quoi. Je l'ai tenté.
Vincent, dans l'émission, on a aussi parlé du passe-colo, un moyen pour le gouvernement de relancer les colonies de vacances.
Vous allez passer, je sais. Un classique. Ah, merci maman, merci papa, ils ont juste trouvé un moyen de se débarrasser de toi, mon pauvre gamin. Le passe colo, on a eu le passe sanitaire, après le passe culture, le passe partout, le passe muraille, le passe colo, c'est Fort Boyard, hein, le truc clairement. Non, le passe colo, Macron avait aussi parlé de cours d'empathie. Hein. C'est marrant, l'empathie et les enfants, ils prennent vraiment des mesures qui ne le concernent pas, c'est assez étonnant. Après, les colonies de vacances, ça existe aussi pour les vieux, hein, ça s'appelle le Sénat.
Alors. Bon, tu comprends que le gouvernement veut relancer quand même les colos?
Bah, je pense que c'est surtout le seul moyen qu'ils ont trouvé pour que Gabriel Attal prenne des vacances. Après, c'est sûr que les colos, c'est génial. Les enfants reviennent de colos avec des souvenirs, les moniteurs avec des MST, c'est inoubliable. Et en même temps, c'est vrai que c'est une décision étonnante, quoi. Il y a encore quelques mois, le gouvernement parlait de rétablir le service militaire. Maintenant, ils veulent envoyer les enfants en colo. Ça va être sympa, hein. Si on part combattre en Ukraine, on va faire un jeu de piste avec les Russes, hein. Une balle aux prisonniers.
Le gouvernement dit surtout que les colonies de vacances, c'est une arme anti-RN.
Oui, alors ça, j'ai pas compris, hein. Bah, parce que le Rassemblement National est plutôt nostalgique des colonies, donc c'est quand même, c'est quand même assez paradoxal.
Ah, j'adore.
Non, mais du coup, ça va être des colos macronistes. Il suffit que tu dises que t'es contre le 49-3 et là.
Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.
Ça donne pas de gueule, hein. Et pour peu que tu dises que tes parents votre RN, là tu te fais défoncer.
Espèce de petit enculé, de merdeux qui chiasse sa race toute la journée. Connard, connard, connard.
Ah, c'est assez violent, les colos macronistes. Et en même temps, j'encourage tous les enfants à aller en colo, car celui qui n'a jamais ressenti la fougueuse innocence des colonies de vacances, la douceur pleine de vie de ces adultes en puissance, l'inoubliable odeur de lavande de ces contrées de France, n'aura jamais vraiment connu la saveur de l'enfance.
Oh, c'est magnifique. Bravo Vincent, merci beaucoup. Un autre poète nous rejoint, Vincent Moscato, d'un autre genre. Salut mon Vincent. Vincent Moscato est avec nous pour le Moscato Show dans un instant sur RMC.
Bon, ça revient.
La jeunesse, ça va?
Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, Vincent?
Avec ta tête de pieds nus.
Qu'est-ce qui s'est passé hier soir là?
Bah, hier soir, on a glissé.
On a glissé.
Arrête. Pourquoi ils sont pas le goal? Non mais quand même,
Donnarumma nul.
Non mais Donnarumma, il a été bon toute la saison, hein, Donnarumma. Et là,
le soir où il faut, il est bon.
On va en parler, bien sûr. Le PSG pouvait-il faire mieux? Moi, je pense qu'on va gagner là-bas.
Ouais.
C'est pas une grosse équipe quand même.
Non.
Moi, je pense qu'on va gagner là-bas.
Avec un vrai Mbappé.
Mbappé, quoi. Mbappé.
Zéro hier. Zéro hier.
C'est pas interdit pour son pot de départ, il peut marquer un but, tu vois.
C'est vrai. Non. Le pot de départ, c'est
mais
ça.
Mais voilà. Ouais. C'est ça. Que ce soir, c'est Benfica OM. Quelles sont les raisons d'y croire? Bon, j'ai aucune raison.
Bon. C'est ça, c'est le rendez-vous comédie.
Hein, ouais, c'est ça. Ça passe, c'est un comédie. Ça, c'est notre page comédie dès qu'on parle de l'OM. Ensuite, un invité exceptionnel. C'est une disque. Il y a Guetta, il y a Mélina, Robert Michon.
Ah oui, magnifique. Ah, oui.
Septième chose olympique. Septième. Je vais te dire un truc. Là, t'en as vu des disquaires. Là, c'est des bons. Hein.
Candidat. Elle lance pas des 45 tours.
Non, mais là, si je vais te dire un truc, elle est exceptionnelle. Ouais. Elle est à vélo. Elle vient. Elle vient.
Oh, bravo. Mais, très belle émission.
J'espère qu'elle sera porte-drapeau. Ou...
Bah, oui. Non,
mais ça serait bien parce que, bon, sept trucs. Hein.
Très belle émission, Vincent. Et puis,
t'as oublié
le.
On relance, bien entendu. Hier, on a parlé des Écossais, le débrief du tournoi. Là, c'est les Gallois. On passe aux Gallois. Ça vous intéressait ou quoi?
Oui.
Toi, t'en as marre, t'as envie d'aller manger là.
Oui, oui.
Tu dis le gros con, il dégage.
C'est pas faux. Je pense pas si bien dire. Merci Vincent, belle émission. Et nous, Estelle Midi, on revient demain dès midi sur RMC Story. Belle émission, Vincent.